Daniel, chapitre 3. Avant d'aborder ce passage, il est un chant que on reprend de temps à autre, le chemin, la vérité, la vie, et une des strophes de ce chant nous dit ceci. Tu es ma forteresse, mon abri, mon secours. Jamais rien ne me séparera de ton amour. Dans les jours de détresse, tu es mon seul recours. Tu m'aimes et tu me protèges. Et ton amour durera toujours. Et ce serait là le témoignage de Shadrach, Meshach et Abednego dans ce chapitre 3. C'est un rappel du psaume 118. Verset 4, qui dit ceci, « Proclamez-le, vous qui révérez l'Éternel. Oui, son amour dure à toujours. Du fond de ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel et il m'a répondu en me rendant la liberté. L'Éternel est pour moi, je ne craindrai rien. Que me feraient les hommes ? L'Éternel est pour moi, il vient à mon secours. » Je peux donc regarder en face tous ceux qui me haïssent. Ce chapitre 3 du livre de Daniel relate l'histoire de trois jeunes gens hébreux. Anania, dont le nom signifie « Yahvé est plein de grâce ». Michaël, qui est comme Dieu, signifie son nom. Et Azaria, le Seigneur est mon aide. Leur nom babylonien, donnés par le roi de Babylone, nous sont plus familiers, Shadrach, Meshach et Abednego. Et que de fois j'ai vibré en tant qu'enfant à l'écoute de ce récit de l'Ancien Testament, peut-être vous l'avez fait aussi, ces trois jeunes adolescents et de leur expérience dans la fournaise ardente de Nebuchadnezzar. Mais maintenant, ayant grandi, est-ce que nous pourrions laisser ce récit de côté? Je crois que ce récit a beaucoup de choses à nous dire. Et j'aimerais explorer cela avec vous ce matin. Bien des années se sont écoulées depuis le songe du roi Nebuchadnezzar au chapitre 2 de ce livre. Ce roi s'était emparé de nouveaux royaumes. Toutes ces grandes victoires ont encore attisé son orgueil. Alors c'était déjà agréable pour lui d'apprendre de la bouche de Daniel qu'il est lui la tête d'or de cette statue dans sa vision. Alors, il voulait être représenté aussi par une statue entièrement en or. Ce dictateur mégalomane a une idée. Il décide d'ériger dans Babylone une énorme statue en or. Et tenez-vous bien, cette statue faisait 39 mètres de haut, 3 mètres de large, et était visible des quatre coins de la cité de Babylone. Une des caractéristiques des dictateurs de l'histoire, c'est vouloir imposer leur marque ou leur image. Bon nombre d'empereurs et autres ont frappé la monnaie avec leur effigie dessus. L'Apocalypse nous parle aussi du plus grand des dictateurs qui viendra, l'Antichrist. Et du point de vue de Dieu, dans la perspective divine, ce personnage est appelé la bête. Il va imposer au monde son chiffre ou son nom. Sur la main droite ou sur le front de chaque être humain sera inscrite cette marque de l'Antichrist. Et le but final visé par Nebuchadnezzar en tant que dictateur, c'est qu'il veut être adoré, lui. Et ce désir, cette passion de l'adoration, est en fait l'enjeu suprême de tous les conflits dans l'univers, qui va recevoir l'adoration? Le vrai Dieu, le créateur de ce monde, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de la Bible, ou des idoles ou des faux dieux? C'est du reste ce que vise le diable, l'objectif. Rappelons-nous de la tentation de Christ dans le désert. Et le diable vient à lui et lui dit, il le transporte sur une montagne très élevée, lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire, et il dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et tu m'adores. Et bien sûr, le Seigneur a répondu, il est écrit, tu adoreras l'Éternel, ton Dieu, et lui seul. Satan nous tente aussi. Et il cherche à nous inciter à le suivre en nous promettant le monde si on se prosterne devant lui. Parce qu'il recherche lui-même l'adoration. Verset 1er de Daniel 3, le roi Nébuchadnezzar fit faire une statue d'or de 30 mètres de haut et de 3 mètres de large. Il la fit ériger dans la plaine de Doura, dans la province de Babylone, puis il convoqua les satrapes, les préfets, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les juristes, les magistrats et tous les dirigeants des provinces pour l'inauguration de la statue qu'il avait fait dresser. Alors les satrapes, les préfets, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les juristes, les magistrats et tous les dirigeants des provinces s'assemblèrent pour l'inauguration de la statue que le roi Nébuchadnezzar avait érigée. Ils se tinrent debout face à la statue élevée par le roi. Donc je me suis trompé dans l'introduction, c'est 30 mètres, pas 39 mètres. Vous avez saisi. C'est quand même une certaine hauteur. Voilà, Nébuchadnezzar, il organise un super show médiatique, une extraordinaire cérémonie d'adoration. Et tous les personnages, les grands personnages, les notables du royaume sont assemblés. Ainsi que tous les hommes de toutes les nations et de toutes les langues qu'il avait aussi ramenés en captivité à Babylone. Donc voilà, le gratin de tout Babylone est présent. Un grand orchestre comprenant tous les instruments de l'époque est mis sur pied. Et là est planté donc cette super production, le décor de cette super production. Et ce n'est pas du cinéma, c'est de la réalité. Un héros crie à voix haute l'ordonnance suivante. À vous, peuple, nation et homme de toute langue, verset 4, on vous fait savoir qu'au moment où vous entendrez le son du cor, du fifre, de la cithare, de la lyre et de l'harpe, de la double flûte et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez devant la statue d'or que le roi Nébuchadnezzar a fait ériger et vous l'adorerez. Celui qui refusera de se prosterner devant elle et de l'adorer sera jeté aussitôt dans la fournaise où brûle un feu ardent. La clé donc pour les rebelles, c'est cette menace de mort, la fournaise ardente. Donc l'héros crie, l'orchestre joue et tout le monde se prosterne et adore, tout sauf trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, les trois amis de Daniel qui, eux, ne plient pas le genou devant la statue de Nébuchadnezzar. Alors nous pensons peut-être que ces trois compagnons auraient peut-être dû se dire intérieurement, Seigneur, ça va mal se terminer ici. Tu sais, Seigneur, au fond, on ne s'agenouille pas intérieurement, mais pour éviter les ennuis et les dégâts, peut-être qu'il serait bien qu'on fasse comme les autres. Mais intérieurement, Seigneur, on te reste fidèle. Partout dans le monde aujourd'hui, nous avons des frères et sœurs qui sont martyrisés, mis à mort parce qu'ils ne veulent pas renier leur Seigneur. Ce n'est pas César qui est Seigneur ou Nebuchadnezzar, c'est Dieu qui est Seigneur et Seigneur de ma vie. Et ils sont mis à mort en raison de leur foi. Dans Marc 8, 38, Jésus avait averti ceux qui le suivaient, « Celui qui aura honte de moi et de mes paroles au lieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Mais ces trois amis de Daniel n'ont pas honte de leur Dieu. Leur cœur n'est pas partagé. Ils ne font pas dans le compromis pour s'épargner des ennuis et éviter la confrontation avec l'esprit du monde qui règne à Babylone. Jésus a aussi dit que nul ne peut servir de maître. On ne peut pas avoir deux comportements, deux attitudes, une en public et l'autre en secret. Pas d'hypocrisie. Un disciple de Christ appartient à son Seigneur et ne se prosterne que devant le Dieu véritable. Nous devons ôter aussi les idoles de nos vies, ces choses qui viennent prendre notre loyauté plutôt que celle qu'on doit avoir pour Dieu. Nous ne devons pas avoir d'autres dieux devant sa face. Ainsi, avec une foi ferme et solide, ces trois jeunes gens refusent de se prosterner. Et eux seuls, dans toute la ville de Babylone, sont réellement libres. Parce qu'ils sont prêts à mourir pour leur confiance et leur foi en Dieu. Tous les autres sont des esclaves du roi Nebuchadnezzar. Et dans notre vie, à un moment donné, Dieu nous donne de proclamer publiquement notre foi. Et si nous ne sommes pas prêts à répondre de celui qui demande concernant l'espérance qui est en nous, il y a un danger. Et la vraie question, c'est est-ce que nous sommes prêts à payer le prix en obéissant à notre seul maître et ne pas plier le genou devant les idoles de ce monde. Fort heureusement, le Seigneur est là, il protège. Et quand les trois amis de Daniel ont décidé de ne pas se prosterner devant la statue, eux ne connaissent pas la fin de l'histoire. Tout ce qu'ils savent, c'est que c'est la fournaise ardente qui les attend. Ils étaient prêts, eux, à mourir pour leur foi. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à vous imaginer cette scène, mais c'était extrêmement impressionnant, une scène impressionnante. D'un côté, il y a le roi Nebuchadnezzar, le monarque le plus puissant que le monde connu ait jamais vu, entouré de toute la pompe et de la magnificence de sa cour et de son royaume. Et de l'autre côté, trois jeunes hommes d'une race méprisée, quelle que soit leur position à ce moment dans le gouvernement de Babylone. Et la question qui allait être soulevée était celle-ci. Qui est le maître de la conscience des hommes? Dieu ou l'homme lui-même? Et Nebuchadnezzar lui-même soulève cette question. Il leur demande d'abord si l'accusation était vraie. Et on peut remarquer que lui-même s'écarte de son propre décret en acceptant l'accusation supplémentaire que les Chaldéens avaient portée. Ils ne servent pas les dieux du roi. Ensuite, il leur donne une occasion ultime de prouver leur loyauté lorsque les instruments de musique feraient à nouveau entendre leurs accents excitants. Verset 15, « Vous êtes prêts à vous prosterner et adorer la statue que j'ai faite. » Mais si vous ne le faites, n'adorez pas, à l'instant même, vous serez jetés au milieu de la fournaise de feu ardent. Et finalement, transporté de rage, le roi ose défier l'intervention de quiconque s'estimerait supérieur à lui. Et par là, affirmerait sa propre toute-puissance, car il ajoute, « Et qui est le Dieu qui vous délivrera de ma main ?» En fait, ça, c'est une déclaration de guerre. Et le conflit engagé, situé maintenant entre Nebuchadnezzar et Dieu. Est-ce que Nebuchadnezzar fait le poids ? Absolument pas. Ces trois jeunes Hébreux s'expriment devant le roi et le disent d'une manière paisible et soumise, je dirais même sublime dans sa confiance en Dieu et en sa puissance. Leur réponse, et on va l'aborder dans quelques instants, manifeste leur courage dans leur détermination à oser tout et à endurer tout plutôt que d'être infidèles à leur Dieu. Quelqu'un avait dit ceci, « Tant qu'un homme n'a pas trouvé une cause pour laquelle il est prêt à mourir, cet homme n'est pas prêt à vivre. » Avons-nous trouvé la cause pour laquelle nous sommes prêts à mourir? Que Dieu, dans sa grâce, fasse que nous puissions être prêts non seulement à mourir pour notre Seigneur Jésus-Christ et la cause de l'Évangile, mais surtout et avant tout de vivre pour l'Évangile. Alors, il y a des certitudes de la foi. Nous allons lire ensemble les versets 16 à 18. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache ô roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Notons les certitudes de la foi qui ressortent de cette confession. Premièrement, il déclare que pas besoin de te répondre là-dessus au roi. Dans le sens que le roi a défié Dieu, donc pas besoin de te répondre là-dessus. C'est Dieu seul qui prendra en charge ce roi. Et ces jeunes gens comptaient pleinement sur l'intervention de Dieu pour réprimer cette protection arrogante et pour revendiquer son propre nom et sa suprématie en tant que créateur et souverain maître. Ensuite, ils se mettent à confesser calmement leur foi qu'ils ont dans la puissance de leur Dieu pour les délivrer. Et même si Nebuchadnezzar mettait à exécution sa menace de les jeter dans la fournaise, leur confiance est « Il nous délivrera de ta main. » Donc, première certitude, ils ont l'assurance que Dieu est capable de les délivrer. Notre Dieu peut nous délivrer. Dieu peut tout. Ça, c'est facile à dire, n'est-ce pas? Est-ce que nous le croyons fermement de tout cœur? Nous, on est d'accord sur le principe. Mais il faut vraiment l'exercice de la foi pour croire que Dieu est capable d'agir dans notre situation présente, dans notre fournaise d'épreuves. Dans le cas des trois jeunes Hébreux, rien ne pouvait paraître plus improbable et impossible que leur délivrance. Alors, posons-nous la question personnelle. Est-ce que je crois, est-ce que tu crois que Dieu peut venir à ton secours dans ta situation présente? Particulièrement si on ressent déjà la chaleur de la fournaise ardente. Suis-je prêt à marcher par la foi, non pas par la vue, et à faire confiance en mon Dieu pour toutes choses? Deuxième certitude, ils ont confiance que Dieu est prêt à les délivrer. Il peut les délivrer et il est prêt à délivrer. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Alors, admettre que Dieu peut délivrer, c'est une chose, mais avoir la certitude qu'il va intervenir dans un cas précis en est une autre. Et connaître Dieu, avoir cette relation filiale avec notre Père Céleste, c'est posséder l'assurance qu'il est prêt à intervenir comme il voudra et de la manière dont il voudra, parce que ce sera la meilleure chose. Et Dieu va délivrer les trois Hébreux, mais d'une façon que eux n'avaient pas envisagée. Mais leur foi ne se limite pas à ces deux premières certitudes. Le verset 18 nous révèle une troisième certitude qui les rend invincibles. L'acceptation du fait que Dieu est souverain. Il dit, sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux. Leur foi n'est pas ébranlée. Même si Dieu ne délivre pas, c'est comprendre que si Dieu n'a pas l'intention de venir à leur secours, c'est parce qu'il tient en réserve quelque chose de meilleur pour eux. Est-ce que nous pensons cela lorsque le Seigneur n'agit pas comme nous le désirons? Parfois, nous formulons des prières et on est presque en train de dicter à Dieu ce qu'il doit faire. Est-ce que nous perdons foi ou est-ce que nous sommes prêts à accepter sa volonté souveraine? Quelle qu'elle soit, même si on ne la comprend pas. Et adopter une telle attitude, c'est estimer que la fidélité de Dieu et sa fidélité envers nous, c'est plus important que la vie terrestre. Ils font donc confiance à Dieu. À ce moment où ils n'avaient aucune idée du but que Dieu recherchait dans cette épreuve. Ensuite, il y a des implications. Je ne suis pas avancé comme je voulais. Voilà. Les implications de la foi. On se trouve toujours en présence d'un choix à faire. Alors, nous pouvons nous engager sur une voie supérieure ou une voie inférieure. L'alternative devant laquelle se trouvaient ces jeunes Hébreux n'était pas facile. Et il en est de même pour nous. Nous allons et nous passons par des expériences angoissantes. Qu'est-ce que nous aurions ressenti si nous avons été placés devant le même choix que Shadrach, Meshach et Abednego? Adorer la statue ou brûler vivant dans la fournaise? Mais notons bien la subtilité de cette situation. Le roi ne leur demande pas de renier leur foi, mais simplement de se courber devant sa propre image. Et le compromis, c'est l'arme subtile de l'ennemi de notre âme. Se courber devant une idole, pas nécessairement renier Dieu ni la foi. Deuxième chose, la foi comporte un risque à prendre. Et c'est vrai que sans risque, la foi n'est pas nécessaire. Si on connaît le chemin d'avance, on marche par la vue. N'est-ce pas? Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire d'un funambule. Il avait tendu un filin en acier au-dessus des chutes du Niagara. Et il monte sur ce câble, il traverse et il revient. Et la foule est là, applaudit. C'est vraiment quelqu'un d'important. Ensuite, il prend une chaise avec lui, il traverse Et il revient avec la chaise sans tomber. Ensuite, il s'adresse à la foule et dit « Qui est volontaire pour monter sur mon dos et venir avec moi ?» Plus personne. Rien du tout. Non, parce que nous aimons nous sentir en sécurité. Pas sur la corde raide. Et planifier les choses afin de s'assurer pour qu'on puisse en sortir indemne. Quoi qu'il arrive. Sans se faire rôtir, sans se faire mouiller. Mais les implications de la foi, c'est que la foi doit s'attendre à affronter l'opposition. Alors, au lieu de murmurer devant les difficultés qui nous assaillent, le Seigneur, et on a lu le texte dans Jacques, le Seigneur nous appelle à nous réjouir de ce que les difficultés, les épreuves nous fournissent une nouvelle occasion d'exercer notre foi. Si nous sommes engagés sur le chemin de la foi, attendons-nous à rencontrer de fortes oppositions, tant extérieures qu'intérieures. S'il n'en était pas ainsi, nous ne serions pas motivés ni stimulés dans notre marche en avant. Alors, quelles sont les sources de l'opposition? Je ne les ai pas mis sur les diapos. Il y a d'abord le monde. Le mot dans le Nouveau Testament, c'est cosmos, c'est-à-dire structure, système centré sur l'homme et dirigé par le prince de ce monde, Satan, qui lui est hostile envers Dieu et envers les enfants de Dieu. Le monde, c'est la réalité spirituelle de la perdition et de l'injustice dans laquelle nous vivons. Et elle est en opposition à Christ. Toutes les valeurs immorales, les mœurs débridées, le mode de vie dépravé, la souillure morale, la corruption ambiante d'un système érigé contre Dieu. Et le but de ce monde, ce système de valeurs, c'est l'auto-glorification. Les objectifs sont la gratification, la satisfaction, l'indulgence de soi, qui sont en opposition à la volonté de Dieu. Et ce système de valeurs s'organise pour tenter de se passer de Dieu, de rejeter sa grâce et son amour, et se bercer dans l'illusion que l'homme n'a pas besoin de Dieu. Ensuite, autre source d'opposition, la chair. Et la chair désigne l'être humain tout entier. Ce « moi », M-O-I, incapable de faire le bien par lui-même, sur lequel, bon, des gestes de bonté, oui, faire des bonnes œuvres, oui, mais de faire le bien tel que Dieu l'entend. Et nous devons, en fait, perdre nos illusions. Paul le dit bien, « vivre selon la chair », c'est se laisser dominer par les appétits charnels qui asservissent les facultés intellectuelles, les sentiments, la volonté et aussi le corps. Et cette chair ne peut pas être améliorée, réformée, ni sanctifiée. Il faut qu'elle soit subjuguée, tenu en échec, et en réalité, Paul utilise le terme « crucifié » par la soumission à la présence et à la puissance du Saint-Esprit qui demeure en nous. Et troisième source d'opposition, nous savons qui c'est le diable. L'adversaire, ce lion rugissant qui rôde, cherchant qui dévorer. Il cherche les failles. Le diable, en grec, diabolos, celui qui met les bâtons dans les roues, c'est lui qui veut nous casser dans notre élan, nous embrouiller adroitement. Et Satan est bien l'adversaire qui, après avoir affronté Christ sans succès, et après avoir été réduit en soumission à la croix, exposé, s'oppose encore à la pleine réalisation du plan de Dieu. Et il cherche par tous les moyens à détourner les enfants de Dieu par l'arme de la souffrance ou de la séduction. Mais il met tout en œuvre pour bloquer, pour nuire à la mise en pratique de notre foi en Jésus-Christ. D'ailleurs, le diable nous espionne en ce moment même, afin de découvrir la faille, l'accès, le point faible, où il peut nous attaquer, nous pousser à des attitudes, à des pensées, des actions qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Philippiens 4, 8 dit que tout ce qui est pur soit l'objet de vos pensées. Alors comment faire face à l'opposition et les circonstances adverses qui en découlent? C'est de faire preuve de foi et d'obéissance à Dieu. Je vous donne simplement en 5 points, 5 principes. Comment faire face et faire preuve de foi et d'obéissance à Dieu? Maintenir notre regard fixé sur Dieu. Pas sur nous, ni sur les autres, mais sur Dieu. Deuxièmement, exercer notre privilège de la prière. Troisièmement, obéir à la parole de Dieu en toutes circonstances. Quatrième chose, demander à Dieu de renouveler notre vision des âmes perdues autour de nous, ceux qui périssent. Et dernièrement, de vivre non pas pour le temps présent, mais pour l'éternité. Et la délivrance de l'épreuve, elle vient après. Il y a quand même deux leçons importantes. Être délivré de l'épreuve n'est pas nécessairement pour notre plus grand bien. Alors nous, on aimerait bien que la souffrance s'arrête, n'est-ce pas? Dieu n'a pas délivré les 3 jeunes Hébreux de la fournaise ardente, mais il les a délivrés dans la fournaise ardente. Quelle est sa promesse? Qu'il sera toujours avec nous, dans n'importe quelle circonstance. Deuxième leçon importante, c'est le but de l'épreuve diffère d'une personne à l'autre. Dieu choisit de délivrer certains de l'épreuve, il en secourt d'autres dans l'épreuve. Mais la question que je me pose et que je partage avec vous, notez bien ce qu'ils ont répondu au roi. Sinon, au roi, est-ce que le sinon fait partie de notre vocabulaire spirituel? Quand les choses tournent mal, quand le chômage, la maladie, le deuil nous frappent, est-ce que nous possédons un sinon pour traverser l'épreuve? Est-ce que nous continuons à être fidèles envers Dieu sans nous apitoyer sur notre sort, sans douter de lui? Le roi Nebuchadnezzar n'en revient pas devant cette hardiesse. Et il leur donne une seconde chance de se prosterner. Jamais on n'avait mis en doute son autorité. Son autorité sur tous les royaumes de la terre connus était absolue. Comment ces 3 jeunes gens peuvent-ils désobéir d'une manière si flagrante et publique? Et ils ne pouvaient le tolérer. Et le texte nous dit, rempli de fureur, l'apparence de son visage fut changée envers Shadrach, Meshach et Abednego. Il prit la parole et commanda de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'on en était accoutumé de la chauffer. Il commanda aux hommes les plus vaillants de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de le jeter dans la fournaise de feu ardent, versets 19 et 20. Donc il fallait faire un exemple public de ces rebelles qui se rébellaient contre les commandements du roi et produire une impression sur tous les représentants du gouvernement. Alors bien sûr, dans une certaine mesure, on peut comprendre la colère de ce roi absolu. Il a trouvé un expédient pour assurer l'unité des diverses races de ses États et le succès paraissait certain. Tous se prosternent devant son image. Pas une main n'est levée contre son projet quand soudain, ces 3 jeunes juifs, parmi les objets particuliers de la faveur du roi, sont amenés devant lui, accusés de résister à ses commandements. Alors, de nombreuses suppositions ont été avancées quant au fait de l'absence de Daniel de cette scène. Daniel, lui, n'avait pas renié sa foi et il avait été aussi fidèle que ses compagnons. Cela est attesté par la suite de l'histoire, mais il ne nous est pas révélé pourquoi il n'apparaît pas dans ce chapitre. Mais tout le plan du roi est mis en péril, d'où la fureur qui vraiment prend possession de lui. Et il est destiné à un destin cruel, être jeté dans le feu. Et verset 22, ses ordres sont aussitôt exécutés. Notez bien ce qui est dit. Parce que la parole du roi était rigoureuse et la fournaise extrêmement chauffée, la flamme du feu tua ces hommes qui avaient fait monter Shadrach, Meshach et Abednego. Qu'est-ce qu'une vie humaine pour ce roi cruel? Et les voilà, ces 3 jeunes gens jetés dans la fournaise. Mais leur foi est reconnue, honorée et récompensée par Dieu. Quant à Shadrach, Meshach et Abednego, ils tombèrent tous les 3 ligotés au milieu de la fournaise où brûlait un feu ardent. Dans la fournaise de l'affliction, sachons-le, mes amis, chers frères et sœurs, le Seigneur est plus proche que jamais. Il est plus proche que jamais. Mais il ne les rejoint qu'à partir du moment qu'ils soient au milieu du feu. Ils étaient prêts à mourir, mais ne savaient pas que Dieu les épargnerait. Ils ont agi selon leur foi. Et Dieu intervient parce qu'ils ont tout risqué. Verset 24, le roi se leva précipitamment et prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent et dirent au roi, « Certainement, roi. » Et il répondit et dit, « Voici, je vois 4 hommes déliés se promenant au milieu du feu. » Et ils n'ont aucun mal, et l'aspect du 4e est semblable à un fils de Dieu. Alors, 2 miracles confondaient ce roi à ce moment précis. Le fait que ceux dont il avait voulu faire des victimes étaient déliés et n'avaient aucun mal, et la présence avec eux d'un compagnon surnaturel, et que lui-même décrit comme un fils de Dieu. Alors, non pas qu'il a compris ses propres paroles, mais nous pouvons conclure que, comme souvent dans les Écritures, l'Esprit de Dieu le contraignait et lui faisait proclamer la vérité. Ésaïe avait dit ceci en parlant au nom de l'Éternel à Israël dans Ésaïe 43, 2. « Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne seras pas brûlé et la flamme ne te consumera pas. Merveilleuse promesse. Alors, les flammes sont maîtrisées. Nebuchadnezzar s'approche de la porte de la fournaise où brûlait un feu ardent et se mit à crier « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu Très-Haut, sortez de là et venez ici. » Alors Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les préfets, les gouverneurs et les conseillers du roi se rassemblèrent pour examiner ces hommes. Ils constatèrent que le feu n'avait eu aucun effet sur leur corps, qu'aucun cheveu de leur tête n'avait été brûlé, et que leurs vêtements n'avaient pas été endommagés et qu'ils ne sentaient même pas l'odeur du feu. Les flammes ont rongé quoi ? Leurs liens. Ce qui leur permet de marcher sans entrave, en compagnie du Seigneur. Et leur foi est justifiée, leur Dieu aussi, par cette délivrance miraculeuse. Alors pourquoi tous ces détails concernant le corps, les cheveux, les vêtements, les cheveux ? Pourquoi mentionner que l'odeur de feu ne les avait même pas touchés ? Parce que le Seigneur voulait manifester sa toute-puissance. Il voudrait réduire à néant la confiance des grands de Babylone dans leur dieu Isbar, le dieu de feu. Le roi lui-même a provoqué cette défaite par son intervention. Dieu a rencontré ces trois ardents adorateurs de Dieu et il les a délivrés. Et il s'est opposé à ces adorateurs du Dieu de feu sur leur propre terrain. Et ils comprennent qu'ils ont affaire avec le Dieu des cieux et de la terre, donc le Dieu de Babylone aussi. Et puisqu'il était capable et désireux de délivrer ses trois enfants, il pourrait faire de même pour tous. Ainsi, comme le verset 24 nous le dit, il a inspiré la crainte dans le seul vrai Dieu. Et ils sont amenés, au verset 28-29, à attribuer la gloire et l'honneur au nom de Dieu. Pour terminer, posons-nous bien cette question. Suis-je prêt à relever le défi, à soulever ce bouclier de la foi, à avancer avec courage, confiant, avec la certitude que Dieu m'accorde sa victoire. Alors, de nos jours, les flammes de l'épreuve peuvent fort bien nous lécher et les images adorées sont nombreuses autour de nous. La forme de la fournaise peut varier selon les siècles, mais elle existe toujours. Parce que si nous ne courbons pas devant les dieux des coutumes populaires, nous serons soumis aux flammes du ridicule, de l'impopularité, l'ostracisme social. Et il est tout à fait possible que le véritable feu de la persécution fasse rage autour de certains d'entre nous en ce moment même. Mais si nous voulons vivre et recevoir les bénédictions, les délivrances de ce que Dieu donne, si nous voulons par notre acte d'obéissance de la foi rendre gloire à Dieu, il nous faut comme Shadrach, Meshach et Abednego vivre notre foi, cette foi qui triomphe du monde, celle qui résiste à l'épreuve du feu. Alors, Je ne sais pas quelle est votre situation personnelle, mais si tu es là de te courber devant des idoles, les choses de ce monde, et que tu désires être libéré des liens qui te retiennent, range-toi du côté de Shadrach, Meshach et Abednego pour faire confiance à Dieu, accepter ce qu'il a accompli. D'abord, son œuvre du salut et de rédemption à la croix, mais aussi que présentement, il nous délivre même des attaques ou de l'opposition. Et admettons devant lui que nous lui faisons confiance et qu'il est en train d'agir en notre faveur. Nous le récitons souvent et nous le connaissons peut-être par cœur, mais Romains 8 est très clair. Nous savons du reste, frère, que toute chose concourt à quoi? Au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alors, j'aimerais que vous puissiez retenir juste, ne serait-ce que ça, mais peut-être d'autres éléments que j'ai partagés, mais au moins ça. Nous devons, devant les difficultés de la vie, dire « je peux, je ferai et je dois ». Devant les difficultés, quand on a l'impression de sombrer et qu'on veut tout lâcher, devant cette fournaise de l'épreuve, nous devons dire avec confiance et foi, avec Dieu je peux, avec Dieu je le ferai. Et nous devons reconnaître que devant Dieu je dois le faire. En raison du salut qu'il nous accorde, nous lui devons obéissance de notre témoignage afin d'être des lumières pour les autres, de guider les autres vers lui, vers cette vie qui nous a été si généreusement accordée par notre Seigneur. Donc c'est important à saisir en considérant notre vie, surtout si on est sur le point de craquer. C'est qu'avec Dieu, nous le pouvons. Avec lui, nous le ferons. Et par lui, nous le devons. Je vous invite à chanter ensemble.